participer à des opérations. Ça rappelle beaucoup la guerre d'Algérie. On rentre chez les gens en pleine nuit, à 3 heures du matin, on réveille tout le monde, on met tout le monde dans une pièce, on saccage, etc. Et puis on s'en va, il n'y a aucune explication. Des fois on prend quelqu'un, des fois on prend pas. On ne sait pas si la personne est arrêtée, si elle est prise, elle est libérée le lendemain ou elle n'est pas libérée. Et donc on fait vivre en permanence c'est une vie de contraintes permanentes. Et puis il y a les contraintes institutionnelles, il y a les contraintes physiques. C'est-à-dire que le paysan qui a son champ qui est en face de sa maison, mais qui doit faire tous les jours 30 km pour contourner le mur, et qui au bout d'un moment n'y va plus parce que c'est trop compliqué, parce qu'il faut passer un checkpoint, parce qu'on perd des heures, parce que, etc. Et c'est fait exprès. Alors, je raconte par exemple un cas, un checkpoint qui est absolument épouvantable, où c'était un article paru dans Haaretz d'un universitaire, je crois qu'il était australien, qui racontait qu'il a été voir des amis à Bethléem, et il veut rentrer le lendemain matin pour revenir à Jérusalem. Bethléem, c'est à 10 km, hein, 12 km. Et donc, il doit passer par le checkpoint, et donc il y a un gros checkpoint, il y a quatre passages. Il arrive, les gens attendent, aucun n'est ouvert, puis à un moment, il y en a un qui s'ouvre. Alors tout le monde court à celui qui est ouvert, ça dure 5 minutes, puis ça s'arrête. Et à nouveau, il y a un ouvert, et puis ensuite il y a l'autre qui s'ouvre. Et on ne sait pas lequel va s'ouvrir, on ne comprend pas la cohérence, il n'y en a pas. La seule cohérence, et cette incohérence, c'est de rendre dingue.
Et c'est une stratégie qui a été quand même travaillée.
Oui, elle a été travaillée.
Mûrie, vous dites, c'est la stratégie, c'est imposé.
We'll be right back. tiens, quand ça nous tient.
Salut à tous, vous êtes bien sur Radio Liberté à 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir ce soir qui commence avec un invité qu'on est très heureux d'accueillir avec nous. Il s'agit de Franck Poupeau qui est sociologue, qui travaille au Centre National de la Recherche Scientifique, dont on avait chroniqué déjà un des bouquins il y a quelques temps maintenant. Et qui est spécialiste entre autres de la Bolivie, mais pas seulement. Et si on l'a invité ce soir, c'est parce que il a écrit un article dans une revue en ligne qui s'appelle Le Vent se lève en octobre dernier sur un auteur qu'on a déjà aussi évoqué dans les précédentes émissions, qui s'appelle Bruno Latour, récemment décédé, qui est un anthropologue, comment il faut dire, je sais, moi, si tu nous préciseras ça.
On va en discuter, justement.
Tu nous préciseras ça, Franck. Donc, Bruno Latour, et qui, du coup, permet de comprendre aussi ce morceau de lancement que nous devons à l'excellent groupe No Means No, et dont le titre est Oh No, Bruno. Voilà. qu'on doit évidemment à José une fois de plus. Alors, cet article qui nous a intéressé, Franck, parce que c'est un article, alors plutôt à charge, effectivement, que tu as rédigé contre Latour, alors que les auditeurs connaissent peut-être pas, mais qui était professeur au Collège de France, donc avait une certaine renommée scientifique, au moins en France, aussi peut-être en partie à l'étranger, ça aussi tu pourras peut-être nous en dire quelques mots. Et c'est quelqu'un qui passe, en tout cas, ou qui a la réputation d'avoir renouvelé la pensée de l'écologie, d'avoir été à l'origine d'un certain nombre de remises en question très importantes, ou supposées-elles en tout cas, sur notamment la frontière qui existe entre les humains et le vivant en général, donc qu'il appelle les non-humains. Et pour penser les questions et les problèmes environnementaux d'aujourd'hui et les questions écologiques, Bruno Latour défend l'idée que il faut remettre en question ce partage entre et cette prééminence que les humains avaient dans la nature depuis plusieurs siècles, et que en fait l'origine de tous nos problèmes vient en fait de ce partage, ou en tout cas de beaucoup de problèmes vient de ce partage et de cette séparation de l'être humain et à l'égard des autres vivants. Ça a des conséquences, et c'est ce que tu précises dans ton papier, sur la manière dont on comprend les sociétés humaines, dont on les analyse, dont on classe, et notamment sur le concept de classe sociale. Alors c'était peut-être une première question qu'on aurait voulu te poser ce soir, parce que dans ton papier tu expliques qu'en fait il propose ou il diagnostique l'émergence d'une nouvelle classe, une classe écologique, qui est pour toi en fait une manière de liquider l'analyse habituelle qu'on fait des sociétés humaines en termes de classe sociale, qui ont des intérêts divergents, conflictuels, et pour toi c'est une manière donc de remplacer ça, et tu vois évidemment un problème pour le sociologue que tu es, puisque en liquidant ce concept de classe sociale, on liquide aussi évidemment des questions qui sont celles de lutte des classes, de conflits sociaux, et je finis ma phrase et je t'adresse donc cette question à la volée. Voilà.
Ok. Bon, merci beaucoup. Bon, c'est une très très vaste question. Voilà, qui engage un peu. Enfin, différents niveaux d'analyse, on va dire. Hein. Donc, je vais essayer de pas me perdre là-dedans.
C'est la faute de Jean-Mathias.
Oui, bon.
Non, mais c'est ça les bonnes questions aussi. C'est des questions qui vont directement dans le cœur des choses. Le problème, c'est que c'est pas forcément facile de l'expliquer clairement et simplement en peu de mots. Alors, pareil, la réponse risque d'être longue. Alors, juste pour commencer, du coup, on peut s'attarder au petit bouquin là sur la classe écologique, le mémo sur la classe écologique, paru en 2022, je crois. Que j'ai trouvé tout de suite un petit peu cavalier. Parce que il faisait fi de toute une littérature quand même qui commence à être relativement importante sur les inégalités environnementales par exemple, toute une littérature aussi sur les mobilisations écologiques, il fait comme s'il y avait tout ça n'existait pas, et qui montre justement l'ancrage social de toutes ces luttes, même des gens qui sont plutôt proches des latouriens, je pense aux travaux de Martinez Allier sur l'environnementalisme des pauvres, qui vont dire que les gens se mobilisent non pas pour la nature, mais pour la qualité de leur lieu de vie, qualité environnementale de leur lieu de vie. vie, ce qui pourrait être une thématique quasiment latourienne, formulée comme ça, voilà, ne sont jamais cités de ce point de vue-là. Donc, c'était un peu cavalier, et il y a toute une volonté de se poser de nouveau, enfin tout un discours un peu prophétique qui consiste à dire ben voilà, l'écologie n'arrive pas à se poser en force politique, on vous propose une solution un peu miraculeuse, voilà. Alors les vieux idéaux d'émancipation terrestre se sont écroulés, voilà, ça c'est un discours très classique, hein, la fin de l'histoire, la fin du communisme, etc. Et ben, du coup il faut qu'on y aille tous ensemble comme des terrestres, voilà. Donc évidemment il y a plus de conflits, il y a plus de, enfin, ou en tout cas les conflits s'est réduit à quelques très riches qui sont dans le séparatisme social. De ce point de vue là, les pages un peu complotistes du début du livre de Latour qui s'appelle Où atterrir sont stupéfiantes, enfin il y a que lui qui pourrait, n'importe qui aurait écrit ça, ça aurait fait bondir tout le monde, mais voilà, là c'est passé crème. Et évidemment l'ennemi principal là dessus et ça a été très très bien décrit et critiqué déjà par deux jeunes philosophes français marxiste aujourd'hui, hein, notamment Paul Guilibert, dans ses bouquins et dans un article est aussi paru dans Le Vent se lève, je crois. Dans Terrestre, pardon. Je vous donnerai la référence. C'est de réduire le marxisme à une pensée de la transformation de la nature et à une qui serait incompatible avec la vision du vivant qu'ils promeuvent. Alors, est-ce que la stratégie des néo-marxistes français est la bonne de dire, ben non, Marx pense lui-même déjà le vivant, le travail de transformation de la nature et en tant que tel. Voilà. Mais en tout cas, du point de vue de, je pourrais vous citer ce que raconte Latour ici. Quand il parle du nouveau régime climatique et de la mise en cause des conditions matérielles d'existence, de l'habitabilité de la Terre, qui est le grand mot à la mode, il se réclame d'une forme de matérialisme, mais il dit que ce n'est pas la même matérialité que celle des marxistes. Hein, la survie et la reproduction humaine étaient pour Marx le principe premier de toutes les sociétés et de leur histoire. Or, nous nous trouvons aujourd'hui dans une toute autre configuration historique. La production ne définit plus notre horizon, et surtout, ce n'est plus la même matière à laquelle nous nous trouvons confrontés. Voilà. Alors ça, il y a justement un livre qui vient de sortir par une latourienne, hein, qui par ailleurs fait un bon boulot de présentation de textes écologiques, qui est Émile Yache, hein, qui s'appelle Sur la génération contre la production. Alors une vision pareil, un peu dichotomique, un peu simple. Voilà. La production et effacer la génération. Ouais. Enfin, bon, bref.
Et là, cette fois-ci, la source de tous nos maux, c'est plus Galilée, mais c'est la théologie catholique.
Voilà. Donc oui, et puis la théologie catholique chrétienne. Et son ancrage ouais. Chrétienne, oui, et son ouais. Ancrage dans. Son ancrage dans les formes
La création ex nihilo du monde qui
non mais dans les formes ouais. Aussi économiques d'existence avec oui. cette vieille thèse, hein, les origines chrétiennes de la pensée écologique, etc. Ouais. Voilà, de Lynn Wright.
Oui, Latour est un penseur qui se réclame du catholicisme.
Alors, lui se réclame du catholicisme, mais d'un catholicisme un petit peu différent, un petit peu rénové. Voilà, c'est dans, ils ont republié récemment sa première thèse, exégèse et ontologie, et dans les commentaires qu'il fait, vraiment il est pour une sorte de catholicisme mais rénové, enfin qui englobe l'ensemble des savoirs, voilà, enfin okay. c'est assez diffus, c'est plus un catholicisme qui met le qui pense un paradis dans l'au-delà, hein, puisqu'il assimile du coup la vie, comment penser l'au-delà si la planète Terre elle-même est un ensemble matériel, et donc comment penser l'au-delà si l'au-delà c'est quelque chose de l'ordre de l'infini et qui est toujours de ce monde-là. Voilà. Mmh. Donc ça pose un vrai problème théologique et du coup c'est réinscrire la religion dans les pratiques quotidiennes. Ouais. Et du coup il y a un effet incantatoire très très fort, ce truc sur les terrestres, un peu New Age j'allais dire de ce point de vue. Là, on est tous dans le même bateau embarqué. Il faut donc tous atterrir sur la même planète.
Ça veut dire effectivement, ça rejoint la question qu'on pose au départ. C'est vrai qu'il n'y a pas de conflit entre riches et pauvres. Il n'y a pas de conflit entre exploités et exploiteurs. Il y a classe sociale en tant que telle. Et donc c'est un effet dépolitisant en fait, selon toi, ou ça repolitise, mais plutôt de manière conservatrice peut-être. Parce que quand on liquide les classes sociales, effectivement, c'est et les conflits qu'elles peuvent avoir. C'est aussi c'est un des points que tu donnes, il me semble, dans le papier, et c'est aussi de dire qu'en fait à aucun moment il ne lie son analyse des problèmes écologiques à une quelconque critique du capitalisme, par exemple. Ça, c'est un des tout effets aussi.
Tout à fait. Et bon, ouais. Bon, là, il y a une volonté de se situer toujours au-dessus de la mêlée et au-delà de tous les débats. Là, par exemple, les débats entre Anthropocène, Capitalocène, par exemple, qui agitent à la fois le monde anglo-saxon et notamment les néo-marxistes américains.
Ça n'intéresse pas, ça.
Il va pouvoir faire des préfaces ou des mots d'éloge très très forts sur Donna Haraway, sur. Voilà, mais finalement. Il veut pas entrer dans ces choses-là. Je pense que ça fait partie d'un certain nombre de stratégies rhétoriques de rester un petit peu dans le flou, de pas non plus entrer trop dans les détails. Bon ben voilà. Puis comme après il a fait des bon, personnellement, j'accroche pas à pas mal de thématiques, mais il a un certain talent pour exposer certains thèmes d'une façon plutôt accessible. Alors après, est-ce que c'est dépolitisant ? J'aurais tendance à dire oui, mais je pense qu'il faut différencier. Par exemple, l'appropriation qui est faite de la tour par les gens dans la revue terrestre ou par les soulèvements de la Terre, c'est pas du tout la même appropriation qu'on peut en faire à Sciences Po. Ouais. Il était à Sciences Po, hein, il n'était pas au Collège de France par ailleurs.
Il s'est présenté plusieurs fois, il me semble, au collège.
C'est possible, à l'EHS aussi, mais
il n'a pas eu une charte temporaire, je ne sais plus, un truc comme ça.
C'est possible, mais il y a toujours des fois sur un an, etc. Non, mais c'était Sciences Po. En fait, le début de sa reconnaissance dans le champ intellectuel français, c'est quand il passe de l'école des mines à Sciences Po, et il tombe au même moment que Richard Descoings, et là, il y a deux projets égocentriques qui se rencontrent pour faire une même chose. Voilà. Et c'est vraiment le début de sa notoriété, il est au cœur de la capitale, Sciences Po qui est hégémonique aussi, et il y a tout un ensemble de stratégies éditorial pour faire reconnaître la grandeur de son œuvre, on va dire.
Et t'évoquais le cas des soulèvements de la Terre, là, parce que je trouvais la dimension un peu politiquement difficile à déterminer, quoi, de ce qu'il raconte. Les soulèvements de la Terre, alors pour le coup, peut-être tu peux nous en dire deux mots, ça c'est un peu basique, mais l'intitulé même du mouvement, d'une certaine manière, et le fait de dire on défend pas la nature, on est la nature qui se défend, ça c'est une formule, effectivement, qui est très très latourienne, en fait. C'est-à-dire, effectivement.
Qui est reprise aussi par Descola.
Par Descola, oui. Voilà.
Après, c'est toujours compliqué d'analyser des mouvements comme ça. D'abord, j'ai pas fait d'études sociologiques. On peut penser que sociologiquement, on sait à quoi s'attendre aussi à l'intérieur. Ça doit être, ça doit être du capital culturel plus en grande partie. Mais ça serait réducteur et j'ai pas envie de critiquer un mouvement au moment où, en plus, ils sont réprimés.
C'est pas la période.
Et d'ailleurs, j'ai contribué, moi aussi, comme beaucoup d'autres, à déposer des recours là au tribunal administratif, etc. Donc je pense que c'est une cause qui mérite d'être défendue.
C'était juste sur l'intitulé. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il fait partie des gens qui effectivement lancent comme ça des espèces de concepts qui sont assez facilement attrapables, je dirais.
C'est des métaphores en fait.
Voilà, exactement.
C'est des métaphores il est assez habile pour pas donner dans la rhétorique classique conservatrice en apparence de l'enracinement. Voilà, donc c'est ou atterrir. Voilà, c'est plus adroit. C'est pas marqué. C'est paradoxalement, c'est sans doute plus à droite aussi. Mais c'est assez malin. Et en fait, il file des métaphores. Ou atterrir. Voilà. La pensée métaphorique là-dessus, elle marche bien. Parce que tout le monde y met un peu ce qu'il veut y mettre. Et pour le coup, je trouve que, en même temps, si ça permet une réappropriation. Par les soulèvements de la Terre de cette façon-là, c'est très très bien et c'est un mouvement qui doit exister, même si personnellement je trouve qu'il y a des formes de spontanisme ou d'exaltation de l'immédiateté politique alors qui peuvent aussi se justifier par des formes d'urgence, mais qui sont aussi pas très mobilisatrice au-delà du cercle des initiés, voilà, ou des convaincus par le terrestre.
Et par le terrestre, et tu dis, alors effectivement, c'est peut-être deux mots sur ce qu'il appelle de ses voeux, ce qu'il constate, la nouvelle classe écologique, là finalement ça peut être tout et tout le monde et n'importe qui, en fait, puisqu'on est tous dans le même bateau, on est tous impactés par les crises climatiques, environnementales, etc. Et donc en fait, on devrait tous se donner la main et tous aller dans la bonne direction. Enfin, je caricature évidemment, mais il y a quelque chose effectivement d'un peu attrape-tout, quoi, dans une notion comme celle-là, et qui lui permet de liquider, c'est aussi ce que tu dis dans ton papier, ce qui lui permet de liquider ce que tu évoquais, toute forme d'analyse sociologique, tout rapport un peu concret aux sciences sociales, et de rester dans une espèce de spéculation un peu métaphorique qui peut ne déplaire à personne,
voilà, et qui finalement, alors c'est là où pour le coup elle est je trouve qu'elle est un peu dangereuse parce que effectivement elle est un peu dépolitisante. Quand on voit ce que c'est que les mobilisations écologiques entre guillemets réelles, par exemple les luttes pour les factures d'électricité dans le monde anglo-saxon, les problèmes quotidiens qu'on rencontre les gens sur ce qu'on appelle la sobriété, il faut être sobre, et on nous enjoint de limiter nos habitations à 19 degrés, mais il y a plein de gens qui en sont même pas à 19 degrés dans leur logement. Voilà, donc les rapports à la nature, à l'environnement, aux aménités naturelles, etc., sont socialement différenciés, et pour comprendre pourquoi les mobilisations écologiques ont du mal à se répandre et à se constituer éventuellement comme une force politique, il faudrait avoir en tête, et on est tout un groupe de chercheurs qui essayons de faire ça, et ça prend du temps, c'est des enquêtes qui sont pas immédiates, c'est du boulot, c'est de la synthèse sur des terrains différents, c'est essayer de grouper tout ça. On a fait des journées d'études où il y avait quand même une soixantaine de communications sur ces thématiques écologiques, classe sociale, voilà, ça recouvre des réalités très très particulières à chaque fois, comprendre que la mobilisation face à des bouts rouges, des habitants à Gardanne, c'est pas les mêmes motivations que les ouvriers qui veulent pas perdre leur boulot, etc. Ça complique vachement l'élaboration d'une grosse classe écologique comme ça. C'est même problème sur l'extractivisme. Effectivement, personne veut avoir une mine à côté de chez lui. Et je dis pas que je serais pas le premier à me mobiliser s'il y avait une mine qui s'installait à côté de chez moi. Donc là-dessus, on doit aussi balayer devant notre porte. Mais les mobilisations des gens ou les non-mobilisations des gens, ou leur mobilisation pour l'ouverture des mines, ou pour le fait de garder leur boulot dans la mine, ou pour le fait qu'ils ne veulent pas faire remplacer, ils ne veulent pas remplacer une activité minière qui rapporte par, une activité touristique ou paysanne qui rapporterait rien, qui ferait plus de boulot et dont les avantages seraient encore à discuter. Des problèmes très concrets et que la notion de classe écologique est incapable de saisir. Ouais. Voilà, parce que justement, on est de l'ordre de la métaphore là-dessus. Ouais.
Ouais. Et c'est quand même un des effets, c'est qu'effectivement, ça non seulement ça t'aide pas à comprendre ce qui se passe, ou cette difficulté de mobilisation, mais même d'une certaine manière, ça peut faire obstacle à réfléchir à tout ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire effectivement l'approche différenciée socialement des revendications, des motivations,
mais c'est comprendre
ou des
aussi
engagements
que...
ou pas.
C'est comprendre aussi, par exemple, que dans le cas, par exemple, des méga-bassines, aux éditions Raison Agir, on va bientôt sortir un livre de Sylvain Baronne, qui est un très très bon sociologue sur les politiques hydriques. L'ennemi, c'est pas simplement les 3-4 gros industriels. Évidemment, c'est eux qui ont intérêt à mettre des méga-bassines. Par ailleurs, si on voit un peu plus généralement, un peu plus loin, je suis absolument pas en train de justifier l'existence de méga-bassines, au contraire. Je pense que c'est nocif, etc. Oui. Mais si on part pas du fait que toute société humaine est basée sur des infrastructures et qui consiste en particulier à stocker de l'eau. Voilà, c'est le principe du castor. Et on s'installe près des points d'eau . Ce qui est nocif dans les méga bassines, c'est des problèmes d'infiltration, c'est des problèmes de retenue, c'est aussi leur usage, leur finalité, c'est tout un ensemble de choses. C'est pas seulement les 3-4 gros agro-industriels autour, c'est un ensemble, tout un système social ou système socio-écologique qui est engagé dans la construction de ces trucs-là, et c'est pas simplement en allant planter des drapeaux. Alors oui, il faut aller planter des drapeaux en plus, c'est ça qui est compliqué à dire aussi. Oui, il faut aller se mobiliser contre ça, et en même temps les luttes elles se trouvent dans le champ administratif, au sein des agences de l'eau, au sein des répartitions des pouvoirs, les mairies, les préfectures, c'est des circulations d'argent, c'est des circulations de compétences, c'est convaincre des gens bien placés que cette solution-là est une fausse solution, et que il peut y avoir des réservoirs, il y en a dans plein d'autres régions, partout dans le monde, des bassines, mais que cette solution-là, telle qu'elle est pensée, n'est pas la bonne. C'est des micro-luttes qui sont beaucoup moins romantiques, beaucoup moins terrestres, j'allais dire, construire un rapport. Mais ça veut dire que construire un rapport de force, ça se construit au sein de l'État, par exemple. Ça se construit au sein des agences de l'eau. Ça se construit au sein des conseils régionaux. Voilà. Et c'est tout ça qui est éliminé par par une sorte de vision de la classe écologique, du terrestre et d'un soulèvement qui suffirait à tout renverser. Parce que, voilà, la construction de rapports de force, ça ne se fait pas au final. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Ben, on se fait matraquer, on se fait gazer, on finit au tribunal administratif, et puis il y a un méga bassin qui va se construire quand même, ou alors il y a un juge plus ou moins lucide qui va interdire. Mais dans 9 cas sur 10, je pense pas. Mmh. Voilà. Et donc voilà, la question au fond, c'est, ça veut dire quoi construire un rapport de force d'un point de vue écologique? À partir du moment où, en plus, on a un parti écolo qui est nul et qui le démontre encore dans ces élections-là, et pas seulement au niveau du discours, qu'est-ce que ça veut dire construire un rapport de force politique? Rapport de force, ça n'existe pas chez Latour, hein, là-dessus.
Ah là, voilà. Il suffit qu'on se donne la main et qu'on marche dans la...
Oui, c'est un peu les bisounours.
Dans la bonne direction. Voilà.
Ouais. Et là, c'est un peu... Comment dire? Alors, c'est pas sa faute non plus, t'envoies des petits jeunes se faire gazer, matraquer, et quand on t'entend de prendre d'assaut une méga de bassine, voilà, je trouve que c'est une vision un peu limitée de la politique, finalement. Okay. Alors, pour le coup, c'est l'autre question. Enfin, il y a deux niveaux de réflexion. Il y a d'un côté la façon dont Latour donne des outils. Et il peut donner des outils intéressants et pourquoi pas, à la limite, penser à du métaphore si ça mobilise, etc. Mais au service, c'est le deuxième niveau, au service de quel projet d'émancipation? Voilà. Et le projet politique derrière les terrestres, honnêtement, j'ai du mal à le saisir, dans la mesure où on ne pose pas la question de la construction du rapport de force. Et je m'interroge sur sa dimension émancipatrice. Que des gens qui soient très à gauche ou radicaux en matière écologique se l'approprient ne veut pas dire que la pensée latourienne est émancipatrice de ce point de vue-là.
Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bon, on va faire une première pause musicale et puis on reprendra après cette discussion.
Yeah.
bonsoir à tous les auditeurs. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend pour sa deuxième séquence de la soirée. Vous venez d'entendre les Tugs sur un titre en rapport direct également avec notre sujet de ce soir, puisqu'il s'appelle, ce titre c'est Words for Nothing, des mots pour rien. Et qui illustre peut-être, voilà, le sujet de ce soir. En fait, on a le plaisir d'accueillir Franck Poupeau, qui est sociologue et qu'on a invité ce soir suite à un article qu'il a publié en ligne sur la revue Le Vent se lève, qui s'appelle Bruno Latour, pardon, symptômes d'une écologie déboussolée. Alors Bruno Latour, c'est cet auteur français beaucoup repris, discuté et encensé, pourrait-on dire, notamment d'un point de vue médiatique, qui propose de repenser les problèmes écologiques en critiquant la modernité, et notamment ce qu'il voit comme une caractéristique, cette modernité, la frontière entre l'humain et les vivants en général, qui serait une des causes de toutes les crises que nous traversons aujourd'hui. Alors, Franck, tu nous parlais, dans un premier temps, en fait, du caractère un peu métaphorique, un peu spéculatif, qui n'est pas une qualité du travail de Bruno Latour, et de son refus finalement de se confronter à toute forme d'analyse sociologique un peu précise sur les sujets dont il parle. Dans ce papier que tu as publié donc dans Le Vent se lève en octobre dernier, je le précise, tu parles aussi de ces influences en fait intellectuelles, c'était des grands auteurs ou des grands courants qu'il essaye un peu de synthétiser dans son approche. Alors tu mentionnes un autre anthropologue qui s'appelle Philippe Descola, qui lui est au Collège de France pour le coup et pas à Sciences Po, mais aussi alors un penseur anglais, si je ne me trompe pas, d'origine Lovelock, qui est à l'origine de l'hypothèse Gaïa, dont il est beaucoup question aussi dans pas mal de, à la fois de réflexions sur l'écologie et dans les mouvements écologistes aussi. Et puis un sociologue français régulièrement convoqué pour dire du mal de la sociologie en fait, qui s'appelle Gabriel Tarde. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus là-dessus? Je ne sais pas dans quel ordre, peut-être Lovelock d'abord, peut-être nous rappeler un petit peu qui est Lovelock et qu'est-ce que c'est que cette hypothèse Gaïa que Latour reprend à son compte assez largement.
Alors, pour voir pourquoi Latour reprend ça, il faut juste resituer le contexte hein, dans ce qu'il raconte et depuis finalement son livre en 94 qui s'appelle Nous n'avons en 91 je crois ou 91 pardon Nous n'avons jamais été modernes parce que ouais. Grosso modo, si je voulais résumer ça serait une citation de Latour hein, ici: un moderne en développement se sentait à l'aise dans la nature, son modèle cosmologique, si on voulait prendre un exemple canonique, ce serait le plan incliné de Galilée. Voilà, donc l'ennemi, grosso modo, c'est cette vision scientifique issue du grand partage, ce qui est qualifié d'un grand partage entre nature et culture, alors qui est une notion, c'est pareil, très très floue, de nouveau, puisque, bon, ça reprend des formes de dualisme en philo, on peut remonter à la vision de l'âme et du corps chez Platon, enfin même avant. Ça rejoint des choses sur la pensée chrétienne, je vous renvoie au truc de Cassirer sur individu et cosmos dans la philosophie de la Renaissance, ça commence bien avant la révolution scientifique, l'idée c'est que la révolution scientifique aurait scindé le monde en deux, entre le monde des choses inanimées et le monde des humains, avec l'humanisme, etc. Alors, il y a beaucoup de flou, parce que en fonction des auteurs et des textes, le grand partage, ça remonte au 15e siècle, au 16e siècle, au 18e siècle, c'est les Lumières, voire au 19e siècle, avec les premières... premières industries basées sur le charbon, etc. Donc et du coup, bon, on est dans une sorte de choses un peu vagues là-dessus. Et un auteur comme Lovelock, qui lui vient beaucoup plus de la cybernétique. Alors, il y a un livre qui vient de paraître que j'ai pas,
oui,
j'ai pas eu le temps de lire sur cette hypothèse Gaïa. C'est une, en gros, une pensée des rétroactions, c'est-à-dire que on va plus parler de la planète, mais c'est la Terre comme entité vivante faite d'interactions.
Et plus ou moins autorégulé,
ouais, et ouais. Voilà, et donc les humains ne seraient qu'une pièce là-dedans, ils seraient eux-mêmes pris dans ce maelstrom, etc.
Ça veut dire que c'est pas les seuls à agir aussi,
c'est, voilà,
y a des agents.
Non-humain, alors tout ça, ça fait écho chez Latour à ses théories de l'acteur réseau, ça fait à l'agentivité des non-humains, etc. Donc ça arrive au bon moment, même si il faudrait étudier un petit peu plus près ce qui est sous-entendu dans Lovelock. Qu'est-ce qui est très nouveau là-dedans,
Lovelock, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est fin des années 60, années 70, hein, c'est déjà assez ancien en fait, ces textes de Lovelock. Hein, c'est pas... Enfin, c'est pas un perdreau de l'année, quoi. C'est
Mais il y a tout un alors Latour l'a visité. Tiens, il y avait un article dans Nouvelle Obs. Il raconte sa rencontre avec Lovelock. Mais c'est années 70. Il y a plusieurs livres. Il y a deux ou trois livres. Ouais. D'ailleurs, je vais
parce qu'il avait lire. Il avait de mémoire. Il avait des espèces de pareil. Il était un peu sur le registre prophète, hein, lui. C'est-à-dire que au moment de la sortie du rapport Meadows, là, en fait, sur les premiers signalements, les premiers consensus scientifiques sur le réchauffement climatique. En gros, lui en 2020, on était à plus de 60 degrés sur toute la surface de la Terre, c'était foutu, et c'est ça, hein, c'est milieu des années 70. Bon, puis après, il a dit qu'il avait peut-être un peu exagéré, il est revenu aussi, il est à la fois très 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 péremptoire, très très dogmatique, hein, dans ses diagnostics, et puis un peu souple aussi.
Alors après, moi j'ai cherché les dates là, mais donc il faudrait voir le livre de Sébastien Dutreuil. Après, ça a été, moi, les versions que j'ai, c'est 2000-2009, mais ça commence bien avant, effectivement. Après, c'est un autre dossier. C'est pas ça, à la limite, qui est le plus. Ni le plus répandu. Alors, beaucoup de gens font sur l'hypothèse Gaïa, mais pourquoi pas? Enfin, quelque part, en même temps, à partir du moment où des choses marchent pour faire émerger la cause écologique, je pense, dans un contexte où il n'y a quand même pas trop les moyens d'attendre, pourquoi pas? Enfin, ouais, et puis, voilà, c'est aussi, il ne faut pas se tromper d'ennemi, et dans le contexte actuel, les Latouriens ne sont pas nos ennemis. Voilà. Même quand on est sur un projet des mondes. Voilà, il y a quand même beaucoup de forces sociales contraires. Et, alors, que Latour soit, je pense, un penseur fondamentalement conservateur, ça sera le but du travail que je prépare, et je le dis un petit peu aussi là-dedans, que des appropriations du latourisme, même si elles ne nous satisfont pas politiquement, aillent dans un autre sens, on va dire plus écolo, plus progressiste, hein, entre guillemets, progressiste, hein, comme c'est une catégorie difficile maintenant. Pourquoi pas, y compris la répression dont beaucoup sont victimes. Jusqu'où est-ce qu'il faut pas aller dans une réflexivité collective pour voir les limites des formes d'action qui en naissent? Par contre, c'est la question qu'il faut se poser à ce niveau-là.
Parce que récemment, on présentait un bouquin qui était plus ou moins inspiré de Latour et des Collins, et on s'était bien un peu moqué de la gentilité du légume, parce que un des auteurs présentait une start-up parisienne qui livrait des légumes à des gens, je te rappelle Jean-Mathias, en quelque sorte, il faisait complètement l'économie de l'analyse un peu sociale et économique de l'entreprise, pour dire que s'il y avait un turnover massif dans l'entreprise, c'était parce que le vivant était exigeant. Et non pas parce que il y avait des gens qui avaient monté une entreprise et qui voulaient se faire du fric en payant mal de personnes. Alors, comme tu dis, c'est pas forcément... Il y a tellement pire en termes de... Comment dire de,
non, alors, de le coup...
Mais tu vois, ici, tu vois, la gentilité du... Ça met quand même de côté complètement des gros problèmes posés par le capitalisme. C'est ce que tu disais dans la première partie de l'émission.
Hein. Oui. Non, alors, il y a deux choses, deux niveaux, peut-être pour préciser. Les militants écolos, y compris les soulèvements de la Terre, je pense que c'est pas des ennemis. Voilà.
C'est ça que je veux dire. D'accord là-dessus. Voilà.
Effectivement, ces trucs.
On y compte même des amis, en fait.
Voilà, y compris des amis. Voilà. Donc. Non, mais il faut le dire parce que c'est. On peut s'énerver sur des penseurs, des trucs et. Après, ils ont le droit de s'approprier, de prendre des auteurs comme des boîtes à outils. Voilà. Ensuite, le vrai souci derrière ça, c'est que effectivement, le latourisme, comme les trucs de Descola à certains niveaux, alimente ce que j'appelle moi l'environnementalisme des riches. C'est un article que j'ai écrit dans le Diplo en 2020, je crois, sur ce qu'un arbre peut vraiment cacher. Et je prenais ma cible, c'était Anat Singh et son champignon à la fin du monde. Voilà, qu'il faut vraiment être une universitaire de la côte ouest pour s'imaginer vivre dans les ruines du capitalisme, quoi. Voilà, ce genre de truc. Et donc la gentilité des champignons. Voilà, enfin, au bout d'un moment, voilà. Donc, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cet environnementalisme des riches, il traduit un truc très très profond, c'est que l'écologie dominante, c'est l'écologie des dominants. Voilà, et là-dessus.
C'est du Marx.
C'est plutôt du Bourdieu là-dessus.
Ah je vous renvoie. Je pensais à l'idéologie dominante et l'idéologie de la classe dominante.
D'accord. Oui. Pour le coup, c'est la traduction sociologique ou bourdieusienne de cette phrase de Marx, c'est vrai, j'avais oublié. Oui. On vient de publier à Raison d'agir le bouquin de Jean-Baptiste Combi qui s'appelle Écolo mais pas trop. Et il montre vraiment les rapports sociaux différenciés et il montre en fait dans quelle mesure effectivement cette écologie dominante s'impose dans tous les espaces et exclut des groupes sociaux de cette condition écologique voilà au sens large voilà et donc ça il me semble c'est un vrai souci et donc d'un côté il y a le rapport de force qui s'établit pas mais il s'établit pas parce qu'on fait des erreurs d'analyse et les erreurs d'analyse c'est que il y a des appropriations différencier socialement de l'écologie, du rapport à l'environnement, et que les inégalités en matière d'environnement, c'est pas seulement les inégalités des dégâts environnementaux qu'on subit, des déchets, etc. C'est les inégalités d'accès aux aménités environnementales, c'est les inégalités d'accès à des politiques publiques aussi, ou même à un espace public comme moyen d'action sur ces espaces ou sur ces politiques. Voilà. Donc c'est ce qu'il appelle la condition écologique des classes sociales. Et je pense que là-dessus, effectivement, le latourisme dominant aujourd'hui, ou le latourisme tel qu'il est, on va dire, récupéré dans le champ intellectuel parisien, dans les milieux éditoriaux, dans certaines fractions du monde académique, tend à avoir des effets de dénégation de cette dimension politique de l'écologie et de ces inégalités qui traversent les groupes sociaux en matière de rapport à l'environnement. Ouais. Donc là, il y a un vrai truc à penser. Voilà. Donc merci de m'avoir m'avoir repris parce que du coup, oui, je pensais, j'avais en tête les formes de militantisme, mais derrière, il y a quand même un vrai souci dans les catégories d'analyse. Alors du coup, on peut revenir au. Pour le coup, là-dessus, c'est pas forcément mon Lovelock qui est. Alors il y a des articles qui montrent un peu le. Lovelock, c'est un entrepreneur académique, c'est aux frontières aussi de la science et peut-être de l'industrie, voilà. Donc ça, j'ai pas encore tout à fait travaillé ce sujet-là. Je pense que le problème, c'est il est beaucoup plus fondamental, là, il est beaucoup plus philosophique en quelque sorte, avant d'arriver à Gaïa, parce que bon, après tout, la Terre, voilà, ok, Gaïa. Très bien, enfin voilà. C'est de la même façon que l'écologie dominante va dénier d'autres rapports sociaux à l'écologie. Chez Latour, il y a ce refus de toute analyse sociologique incarnée des pratiques. Des pratiques de la nature, des pratiques de l'environnement, du rapport aux déchets, du rapport au travail aussi, à la santé au travail, etc. Et ça, il ne le cite jamais. Il y a quand même des tonnes de travaux, c'est fou, quoi. Enfin, tout ce qu'il balaye d'un revers de main dans son mémo.
Parce qu'il monte à l'étage au-dessus, comme tu disais, au-dessus de la mêlée, on spécule. C'est ça.
Alors, depuis le début, il est sur une forme. Alors, c'est très curieux parce qu'en même temps, dans les archives Bourdieu qui sont à Condorcet, il y a trace. À un moment, il demande à Bourdieu de suivre sa thèse. Il fait même un papier qui est pas très très clair dans les actes, je crois en 76-77, dans la revue de Bourdieu, mais après le contact est rompu quand il va aux États-Unis, Bourdieu ne doit pas vouloir encadrer la thèse, mais il raconte dans plein d'interviews, il était fondamentalement anti-épistémologie, enfin cette école historique française qui est avec Bachelard, en fait il faudrait même remonter à Pierre Duhem, mais qui est Bachelard, qui est Canguilhem, qui a formé des gens comme Althusser, Foucault, Bourdieu et tout l'ensemble d'autres intellectuels. Et là-dessus, ce refus de l'épistémologie conçu comme une construction d'objets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fait, tout est construit, c'est le truc de Bachelard, voilà, qui est décliné à plusieurs reprises dans le métier de sociologue. On le retrouve inversement chez Latour dans sa réhabilitation de Gabriel Tarde contre Durkheim, qui est lui-même un très très proche épistémologiquement de ce que fait Bachelard à ce niveau-là. Hein, il n'y a pas de fait, il faut expliquer les faits sociaux par le social, il n'y a pas de truc naturel, voilà, faut rentrer dans une construction d'objets chez Durkheim aussi.
Et tu dis que chez Latour, au contraire, lui, effectivement, il réintroduit ce qu'on appelle en fait l'ontologie, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de fait construit,
voilà.
On décrit des réalités qui existent indépendamment des processus sociaux dans lesquels ils sont pensés.
Tout à fait. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que dans le travail qu'il a fait connaître au niveau international et dont il se vante toujours en France, alors qu'il y a eu des polémiques très très fortes quand c'est sorti, et même David Bloor, qui est tenant du programme fort, a énormément critiqué ce que faisait Latour à l'époque avec Woolgard, c'est de dire que la science dans le laboratoire produit elle-même ses propres faits. Voilà, donc une sorte de constructivisme.
Constructivisme.
Les modes d'existence, il adopte au contraire une forme d'empirisme radical qui va à l'encontre de toute cette première épistémologie. Et ça, pas grand monde le remarque, et en même temps, c'est normal, parce qu'il a une œuvre énorme.
Est-ce que lui a remarqué, lui? C'est une question que tu peux te poser à un moment
je
donné,
sais pas,
parce
je
qu'à
sais
partir
pas.
Du moment
après,
où.
Après, un auteur a le droit
de changer d'avis.
De changer d'avis,
oui, de
revenir.
À condition de le dire.
Vous reprenez, Bourdieu a évolué. Bourdieu avait un fonctionnement beaucoup plus circulaire, revenait beaucoup plus sur. Sur les travaux précédents. Latour, c'est plus. Il passe d'une phase à l'autre. Voilà, il y a la science, ensuite on passe aux techniques, on essaye tous les trucs, et voilà, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de cumulativité. Sauf, et il le dit à un moment, l'écologie qui devient le truc qui va tout rassembler pour lui. Voilà, c'est l'occasion rêvée, c'est un peu l'épiphanie, quoi, là-dessus. C'est le moment de la révélation et où tout ce qu'il a fait avant prend sens. C'est assez étonnant. Mais quand on a l'ensemble de l'œuvre sous les yeux un petit peu, c'est gigantesque par ailleurs. Il y a un côté, il faut du talent et voilà, c'est pas un penseur à balayer. Je trouve qu'on a tendance beaucoup à dire oui, c'est nul, Latour.
On est pas très nombreux. Hein,
on n'est pas très aujourd'hui, non, mais en tout cas, dans les gens que je fais, des sociologues sérieux que je connais ont tendance à balayer ça d'un revers de main. Et je pense que c'est une erreur parce que justement, il y a ce succès, on va dire, temporel de Latour. Et qui rencontre des attentes, qui arrive au bon moment, qui est promu au bon moment aussi. C'est une construction, une vraie construction éditoriale et politique dans le champ intellectuel, Latour. Et il faut comprendre pourquoi. Voilà. Et il n'est pas dénué de talent de ce niveau-là. On fait pas des dizaines de bouquins et des centaines d'articles comme ça sur du vent. Voilà. Il tourne autour des choses. Même la question qu'il pose. Dans le mémo sur la classe écologique, c'est en gros pourquoi est-ce que l'écologie ne devient pas une force politique. C'est pas une question bête, je pense que elle est en fait mauvaise, posée comme il la pose. Qu'en fait, le truc, c'est pourquoi est-ce que il n'y a pas de disposition à entrer dans des rapports politisés à l'écologie. Ce qui n'est pas exactement la même chose que pourquoi l'écologie ne devient pas une force politique. Voilà. Mais ça, c'est la lecture sociologique que vous trouverez dans le combi, que vous inviterez peut-être un jour.
D'accord.
Ça passera. Voilà. Non, mais voilà, c'est important de saisir ça, cet antisociologisme, voilà. Et il fait quand même un bouquin entier qu'on s'appelle Changer la société, refaire la sociologie, qui est contre la sociologie critique. Enfin voilà, et il y a une sorte de détestation viscérale. Voilà. Mais comme il y a une mais qui est une même détestation qu'on trouve dans quand il exprime le grand partage entre d'un côté la science et pour quelqu'un comme lui issu de la bourgeoisie catholique de province, on comprend bien avec ce vieux sa volonté de rénovation de la religion qu'on voit dans ses derniers textes. Il y a quand même une détestation de cette vision scientifique du monde. Voilà. Et le parallèle de cette vision scientifique du monde, c'est les sciences sociales qui s'attachent à l'autre pan. Et là, pour lui, c'est intolérable aussi. Il y a un côté viscéral, vraiment, qu'on retrouve. Et malgré tout son talent, pour le coup, toute sa rhétorique, il n'arrive pas tout à fait à le dissimuler. Okay. Il y a des moments, ça craque. Dans le texte, dans les interviews en particulier, il sort tout ça. Et donc, avec tout ça, c'est la sociologie, c'est le projet socialiste aussi, c'est les formes collectives. Voilà, la société, faut pas employer ça, il y a que des relations, etc.
L'étape d'après, c'est d'être anti-rationaliste, en fait. Il n'en est pas très très loin non plus, en fait. C'est pour ça que je te pose le problème de la cohérence, mais peut-être on pourra l'évoquer la dernière partie. On va se faire une petite dernière pause musicale, et puis on reprendra après. Hein.
Vous écoutez le bourdonnement médiatique.
Avec Gattari.
Bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu n'y mettre ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend pour sa dernière partie ce soir, avec comme invité Franck Poupeau, suite à un article qu'il a publié en ligne dans la revue Le Vent se lève en octobre dernier, qui s'intitulait Bruno Latour, symptôme d'une écologie déboussolée. Vous venez d'entendre à l'instant une nouvelle illustration sonore choisie par les bons soins de José de Bidens and Maxisator, dont le titre est Bourdonnement médiatique. Alors, dans la partie précédente, Franck, tu nous expliquais effectivement en quel sens un des axes, finalement, peut-être un des rares axes de cohérence de l'œuvre abondante de Bruno Latour, c'était son refus de toute forme de pensée sociologique ou de réflexion sociologique, notamment s'il s'agit de sociologie critique. Tu disais qu'en même temps, c'est pas un penseur à négliger parce que, en fait, il correspond, et ça, effectivement, je pense qu'il faut l'entendre, il correspond à une attente, effectivement, une attente. Et il est aussi, c'est ce que tu indiques dans ton papier, peut-être le symptôme aussi d'un certain état de confusion un peu plus général du champ intellectuel dans lequel effectivement il a évolué aussi, bien sûr. Alors il a aussi évolué dans le champ médiatique, il a aussi eu des prolongements et des réappropriations, tu l'as dit, pas forcément d'ailleurs critiquables du côté dans le champ militant, mais effectivement, alors peut-être que tu peux nous en dire quelques mots pour terminer là-dessus, sur en quoi effectivement cette espèce de... Bon, je vais mesurer mes mots parce que voilà, mais cette mayonnaise-là, allez, on va le dire comme ça, est symptomatique peut-être d'un ensemble de confusion un peu plus générale propre au champ intellectuel aujourd'hui. En deux mots, hein, voilà.
Oui, c'est pas facile comme question, hein. en deux mots. Je pense qu'il arrive au bon moment et le terrain est préparé, j'allais dire. Bon, je vous ai parlé de son arrivée à Sciences Po, lieu central, qui passe d'un lieu marginal, un lieu central, avec un directeur qui a une volonté vraiment hégémonique sur le champ français. C'est en fait la revanche du pôle temporel, hein, qu'on trouve à la fois avec Sciences Po d'un côté, l'école qui est une école pratique à l'origine, hein, voilà, comme l'école des mines, et contre l'académie. Voilà, donc y compris dans son refus de la science, il y a aussi quelque chose du ressentiment, je pense, contre les institutions de recherche, voilà, qui l'ont par ailleurs peut-être pas toujours bien traité au demeurant, je sais pas. Donc il y a ça. Ensuite, Il y a le moment où l'écologie devient un enjeu politique en apparence, même s'il est très politisé. Hein. Je vous renvoie à un autre livre de Jean-Baptiste Combi hein, sur la question écologique et sur la façon dont on la traite de façon complètement individualisée, responsabilisante, et donc on la dépolitise. La tour contribue à cette dépolitisation avec ses terrestres, par exemple. Avec son truc sur l'atterrissage. C'est des métaphores, mais qui occultent toutes les dimensions, on va dire, concrètes, sociales de tout ça.
Et comme on le disait juste pendant la pause, hein, effectivement, comme a pu le faire quelqu'un comme Pierre Rabhi avec une nouvelle métaphore, celle du fin de Colibri, lui aussi, individuel, ouais. etc.
Et c'est vrai que, là je vous renvoie à l'ambiance des années 90, quand Bourdieu était en bagarre contre les politiques néolibérales, il y avait une phase de révolution conservatrice, il y avait tout un ensemble de destruction des collectifs. Les collectifs, ils n'existent pas véritablement chez Latour et en même temps, la pensée de gauche se restructure un peu avec la disparition de Bourdieu, se restructure en dehors de. Je pense que c'est un peu la faute des sociologues. Hein, je me mets dans le lot qui n'ont pas su transmettre des savoirs mobilisables pour l'action. Il y a des formes de spontanéisme hein, de la politique qui émergent dans les groupes militants. Je pense à tout ce qui a été publié par les copains de la fabrique, le comité invisible, par exemple, ou les bouquins de Jacques Rancière, qui sont, pareil, d'un antisociologisme très très fort. Mais cet antisociologisme, on le retrouve chez les post-coloniaux. Je racontais dans Les Mésaventures de la critique en 2012.
Tout à fait.
Et chez les pragmatistes. Chez les pragmatistes, les sociologues pragmatistes, qui sont aussi sur ce refus de la sociologie comme saisie de régularité quantitative, de structure, et donc on réhabilite l'agentivité, l'immédiateté, on apporte l'ethnométhodologie, on apporte Scott, toute cette pensée, plus David Graeber, et toute cette, alors, qui est un penseur sympathique et anarchiste par ailleurs.
Mais, qu'on a chroniqué abondamment dans cette émission également.
James Scott.
On l'a aussi chroniqué.
Oui, mais qui véhicule quand même cette vision très spontaniste des mobilisations, très loin de ce que la sociologie va montrer sur les conditions sociales d'une forme de politisation, par exemple.
Sur la question, sur son appropriation à lui, Latour, de certains courants décoloniaux, tu peux peut-être en dire deux mots aussi de ça, parce que est-ce que c'est quelque chose qui contribue pour lui à rendre cohérent des idées qu'il a pioché un peu à droite à gauche? Est-ce que c'est de l'opportunisme? Est-ce que c'est...
Je sais pas, honnêtement. Ouais. Alors, il va faire l'éloge de Donna Haraway, qui sont pas des coloniaux, hein, mais qui peuvent être mis aussi dans un même sac, qui ont une grosse influence, de Judith Butler, Donna Haraway, de Anna Tsing, et de Vivé Rosé Castro, par ailleurs, qui reprend... c'est comme le bouquin d'Edward O'Conn sur comment on pense les forêts. C'est le même truc. On se met dans les yeux du jaguar, et du coup, il bénéficie de toute une remise en cause de certaines formes de savoir, ou en tout cas d'assimilation d'une crise écologique à une crise économique, civilisationnelle. Tout est mis un peu dans le même sac. C'est la faute à la science. C'est
à la raison.
La science occidentale.
Et à la raison.
Et du coup, il arrive dans ce contexte-là, et je pense qu'il est assez malin, il sait très bien se placer, il voit tout à fait le parti qu'il peut en tirer, il se met au-dessus de tout ça, il s'en réclame pas explicitement, mais il englobe. Il reprend les trucs, il cite légèrement, mais toujours de façon détournée, et il cumule, en fait. Il cumule l'ensemble des choses, et il va faire... Il n'est pas d'accord avec Descola, etc., mais il reprend Descola. C'est assez marrant, leur stratégie, l'un et l'autre. Ils se répondent sans se répondre, ils se font l'éloge quand il faut, c'est pareil avec les décoloniaux, c'est pareil avec les pragmas, qui s'inspirent des styles de l'acteur réseau, Et il va s'établir sur eux, sur Boltanski, etc., ils sont très copains par ailleurs... c'est des choses qu'on sait par la suite. Et pour essayer de cumuler, et il arrive à être celui qui retisse tous les fils un petit peu, parce qu'il est sans doute un peu plus malin, ou en tout cas. Et alors, il a très très bien pigé un truc que Bourdieu avait montré dans l'anthologie politique de Martin Heidegger, c'est que la stratégie ultime de positionnement, c'est justement, on dépasse toutes les autres positions, on se met au-delà. Nous n'avons jamais été modernes, c'est-à-dire que on critique le grand partage et en même temps on dit qu'il n'a jamais existé. Voilà, c'est toujours, on est toujours au-delà, on a toujours un temps d'avance. Et il a toujours un temps d'avance. Et par ailleurs, c'était du coup sa formulation de la crise écologique à laquelle il répond par ses métaphores. Il a bien vu qu'il y avait un truc qui se jouait. Voilà.
Alors, oui, c'est pas le premier pour le coup.
C'est pas le premier, mais il le fait avec plus de succès que les autres, parce qu'il arrive au bon moment, parce qu'il s'appuie sur tous ces courants-là. Et, j'ai cité les décoloniaux, j'ai cité les pragmas, j'ai cité aussi toute la pensée un peu spontanéiste, politique, philo à la Rancière, etc. Mais faudrait citer le renouveau des réalismes en philosophie, qui connaît aussi, qui revient à des formes de pensée précancienne, refus de la division sujet-objet, etc. Voilà, tout entre dans le même truc, et ça contribue, je pense, à faire que il arrive à jouer sur tout ça avec une certaine virtuosité, je dois dire, dans ses stratégies.
Et aussi peut-être pour conclure, quand même, je sais pas, j'ai peut-être une dent un peu excessive, mais le succès, il est aussi lié au fait qu'il contrarie personne en particulier.
Qu'il a une maison d'édition qui travaille très bien, qu'il a découverte, c'est vrai, et qui a très bien su le valoriser, qu'il a eu des formes de transmission de ce qu'il dit très appropriables par les uns et les autres et par des gens très très différents, chacun à leur façon, et effectivement ça c'est pas très subversif en termes de, en tout cas, quel projet d'émancipation, c'est la question que je posais un peu tout à l'heure, personnellement je le vois pas vraiment, suffisait d'être terrestre pour sauver le monde, ce serait sympa, mais okay. Voilà.
Bon, ça nous va comme conclusion, mais on aura peut-être l'occasion de te réinviter plus tard sur le même sujet. On vous laisse donc pour ce soir, c'est la fin de Jeudi Noir. Alors l'émission est toujours disponible sur notre site Jeudi Noir gurdulu.org, et on se quitte avec un morceau en lien direct avec le sujet qu'on doit une fois de plus à Nomizno, qui s'appelle The Tower.
Musique en lutte.
Dans les mouvements libertaires.
Le mouvement anarchiste.
Une cause militante, presque insurrectionnelle.
Nous sommes battus.
On peut faire de la musique militante tout en faisant de la pop.
La culture peut changer les choses.
Et que ce soit le peuple qui puisse se faire entendre
contre le pouvoir en place.
Des gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne.
Le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple.
1, 2, 3, 4. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sûr Radio Libertaire 89.4 FM pour l'émission Musiques en lutte. Ce mois-ci, nous recevons Nathanel Amar pour nous parler de la scène punk chinoise. Mais tout d'abord, commençons par le morceau du groupe The Fly, Life Has Taught Me.
生活又一次教育了我，生活教育。